RCF. RCF, le béaba du christianisme.
Avoir le bourdon, rendre son tablier, boire à tire-larigot, sonner le tocsin, avoir la tête dure, mettre son grain de sel, être transporté au septième ciel, faire Pâques avant les rameaux, ces expressions vous sont sans doute familières. La langue française en regorge, à tel point que deux prêtres ont eu l'idée d'en faire un dictionnaire pour en comprendre l'origine et le sens. On en parle justement cette semaine dans le béaba du christianisme.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Père Gauthier Mornaz, bonjour.
Bonjour Pauline.
On vous retrouve cette semaine, vous êtes le directeur du département Art sacré de la Conférence des évêques de France et vous publiez avec Loïc Bonisoli, un autre prêtre aux éditions du Cerf, Ni sainte ni touche, le dictionnaire décalé du vocabulaire tiré de la Bible, de l'histoire de l'Église et de l'argot ecclésiastique. Plus de 450 expressions illustrées. Des expressions utilisées d'ailleurs, Père Gauthier Mornaz, par le grand public, croyant ou non.
Ah oui, c'est véritablement pour moi la démonstration que notre pays vit d'un substrat chrétien, puisque je serais tenté de penser qu'une expression sur cinq, une expression sur quatre est tirée soit de la Bible, soit de l'histoire de l'Église, soit de l'argot ecclésiastique. Un exemple tout bête, qui n'a jamais parlé de quelqu'un en le considérant comme un plouc ? Plouc, ça vient du vocabulaire chrétien, parce que plouc, c'est un mot qui est utilisé dès la première moitié du XXe siècle pour désigner les paysans bretons qui sont montés à la capitale du fait de l'exode rural et dont la rusticité, le côté un peu pecno, pour le dire simplement, était régulièrement moqué. Mais l'origine du terme, c'est une apocope de nombreux noms de communes de Bretagne qui débutent par plou, comme plougastel, qui signifie paroisse en breton. Ainsi, en rigueur de terme, un plouc, c'est rien d'autre qu'un paroissien.
D'accord, donc la prochaine fois, on tournera la langue sept fois dans notre bouche avant d'utiliser cette expression, Père Gauthier Mornaz. Lorsqu'on dit par exemple que l'on est le benjamin d'une famille, cela signifie qu'on est le plus jeune, mais l'origine de cette expression est à trouver dans le livre de la Genèse.
Oui, on ne sait pas nécessairement effectivement que ça vient du livre de la Genèse, en particulier du chapitre 35, où au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, Rachel, elle le nomma Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Effectivement, le Benjamin, c'est le plus jeune d'une famille ou d'un groupe, et c'est surtout le 13e et dernier enfant du patriarche Jacob et de son épouse Rachel.
Alors, il y a une autre expression, j'imagine aussi, tirée de la Bible, c'est mettre sous le boisseau quand on cache ce qui mériterait d'être connu.
Oui, mais enfin ça vous arrive jamais, Pauline.
Jamais.
Effectivement, c'est dissimuler ce qui mérite d'être connu. Mettre sous le boisseau. C'est dans une de ses nombreuses paraboles, on sait que Jésus s'exprime comme ça en parabole, il compare les hommes et les femmes à de véritables exhausteurs de goût. Ben oui, vous êtes le sel de la terre, dit-il. Et à d'authentiques lumières pour rayonner. Vous êtes la lumière du monde, dit-il. Il insiste sur le fait que la lumière, placée au milieu de la salle commune de la maison à cette époque, se met sur un lampadaire pour éclairer tous ceux qui sont présents. La dite lumière, elle ne se met pas bien évidemment sous le boisseau, c'est-à-dire sous ce récipient qui sert à la mesure, au couvercle, car elle serait inutile, elle serait cachée. Et de cette parabole est née cette expression, mettre sous le boisseau, dissimuler ce qui mérite d'être connu.
Alors quand on feuillette ce dictionnaire, il y a des centaines d'expressions que l'on connaît ou pas d'ailleurs. Alors il y en a une, est-ce qu'elle vient de la Bible, celle-là, être transportée au septième ciel, c'est surprenant.
Ah ah, bien évidemment que ça en vient parce que, en fait, c'est tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 2. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième ciel. Alors on va me dire, mais oui, mais l'expression, elle dit bien septième ciel. Et là, vous me citez un épisode de la Bible qui parle du troisième ciel. Mais en fait, la grande toile bleue qui s'étend au-dessus de nos têtes, ne cesse de nous fasciner, ça c'est sûr, comme source potentielle de nos origines ou comme destinée finale de nos âmes. Cette voûte, elle est composée d'étoiles, dont l'organisation semblait fixe pour nos ancêtres, mais elle a été interprétée par des astronomes babyloniens comme des corps en mouvement. Plusieurs passages bibliques font référence à ces ciels, troisième, mais également d'autres qui vont jusqu'au septième.
Et donc aujourd'hui, c'est quand on dit être transporté au septième ciel, c'est quand même
voilà, c'est le comble du bonheur.
C'est le comble du bonheur,
c'est
du plaisir.
Exactement. C'est plus loin que le Soleil, la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. À chacun était attribué un ciel, et le septième, par définition, était inconnu et inaccessible. Donc, le siège ou trône Dieu, là où le bonheur est à son comble.
Il y a d'autres expressions qui sont aussi voilà, tirées du jargon ecclésiastique ou de l'histoire de l'Église. Parler comme Saint Jean Bouche d'Or, par exemple, ça vient d'où ? Qu'est-ce que ça signifie,
parler
ça vient
comme
d'où ?
Saint Jean Bouche d'Or, alors c'est un drôle de personnage. Hein. Il a été patriarche de Constantinople au IVe siècle et surtout il était célèbre pour les vérités et les réflexions qu'il n'hésitait jamais à énoncer lors de ses prédications. Autrement dit, c'était quelqu'un qui, en chair, parler comme il pensait et y aller extrêmement fort. Et donc, parler comme Saint Jean Bouche d'Or, c'est parler avec aisance, avec assurance. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a Georges Brassens, d'ailleurs, qui un jour l'a cité en disant « Les Saint Jean Bouche d'Or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs, s'attardent ici-bas. » Trois petits points.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Dans le béaba du christianisme, on décortique ces expressions qui vous sont sans doute familières d'ailleurs et dont la langue française regorge. Gauthier Mornaz, vous êtes avec nous, vous êtes le directeur du département d'art sacré de la Conférence des évêques de France et vous publiez avec Loïc Bonisselier aux éditions du Cerf « Ni sainte ni touche, le dictionnaire décalé du vocabulaire tiré de la Bible, de l'histoire de l'Église et de l'argot ecclésiastique ». Alors, dans ce dictionnaire, on peut retrouver ces expressions un peu par thème et on va parler de ces expressions avec les anges ou le diable d'ailleurs. On va commencer avec les anges. Qui veut faire l'ange fait la bête, faire l'ange de lumière. Qu'est-ce que cela signifie et d'où viennent-elles ces expressions ?
Alors il y a quand même une kyrielle, hein, pour employer une autre expression du dictionnaire, une kyrielle d'expressions qui utilise effectivement le mot d'ange. Il y a un ange passe, il y a être aux anges, disserter ou discuter sur le sexe des anges, profiter aussi de la part des anges, cette fameuse évaporation d'alcool qui permet de s'abreuver, de s'enivrer, mais qui veut faire l'ange fait la bête, faire l'ange de lumière. En fait, les anges, on le sait, sont présents à chaque fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu se donne et que l'humanité reçoit. Et donc, il n'est pas étonnant non plus d'avoir finalement des anges qui soient aussi présents, autant présents, dans nos expressions françaises.
Vendre son âme au diable, le diable se cache dans les détails, se faire l'avocat du diable, c'est le même principe ?
C'est le même principe, sauf que vous passez avec une facilité déconcertante du monde angélique au monde diabolique, Pauline, c'est effrayant. Effectivement, on peut être tenté par le diable, on sait très bien que le diable se cache dans les détails, on peut effectivement vendre son âme au diable, ou aller même au diable Vauvert, c'est-à-dire ce lieu très loin, voire indéfini, avant que le diable, bien évidemment, ne nous emporte.
Un ange passe et on va parler à présent de ces expressions qui ne sont pas forcément tirées de la Bible ou de l'histoire de l'Église. D'ailleurs, il y a ces faux amis aussi dans ce dictionnaire. Être béni, oui, par exemple, expliquez-nous.
Ah ben oui, et ça, on peut facilement penser que parce que dans béni, oui, vous avez le mot béni, que c'est forcément une expression religieuse. On sait très bien qu'un béni, oui, c'est une personne qui est empressée à approuver des initiatives qui viennent de quelqu'un qui lui est supérieur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette expression n'a rien à voir avec la bénédiction. Et il ne s'agit nullement d'évoquer les fidèles qui éventuellement acquiesceraient à tout ce que l'Église pourrait déclarer, promettre, sans réflexion. En fait, l'origine de béni oui oui, c'est une origine algérienne et qui date de l'époque coloniale. C'est formé à partir de l'arabe béni, qui est le pluriel de ben, le fils, et de oui oui, qui est la redondance de oui, qui exprime l'accord systématique que les fils devraient logiquement à leurs parents. Un béni oui oui, c'est finalement un très bon fils.
Un béni oui oui, c'est un très bon fils. Y a-t-il d'autres faux amis comme ça dans votre dictionnaire ?
Oh ben peut-être qu'on peut aller voir du côté de ni sainte ni touche. C'est bien évidemment un faux ami par excellence, parce que se comporter comme une sainte ni touche, c'est cacher ses défauts pour se donner un air pur. On le sait tous, une sainte, c'est logiquement une personne qui a mené une vie exemplaire, qui a observé l'Évangile en le mettant en œuvre dans son quotidien, et de ce fait a été canonisée, c'est-à-dire reconnue par l'Église. On comprend donc que sa vie était tout entière tournée vers Dieu et son prochain, et non vers son propre plaisir. Ce faisant, on peut aussi considérer que c'était une femme qui avait l'air de n'y pas toucher au plaisir terrestre, se consacrant plutôt aux satisfactions spirituelles. Par opposition à cette personnification de la perfection évangélique, une sainte n'y touche est une femme qui se veut innocente, irréprochable, vertueuse, bien que tout le monde connaisse sa véritable nature en fait.
Quelles sont celles qui sont les plus utilisées? Est-ce que ça a été un critère aussi pour les recenser des expressions, on le disait, vous nous expliquez tout à fait de manière très claire l'origine de ces expressions, mais on les utilise comme ça, on va dire à la cantonade, sans vraiment savoir ce qu'elles signifient.
Alors en fait, celles qui m'ont le plus intéressé, c'est celles effectivement que, à titre personnel, j'utilisais énormément sans connaître véritablement leur origine. Celles que j'utilise le plus facilement, et ceux qui me connaissent souriront un petit peu, c'est effectivement se battre pour des prunes. Qui sait que se battre pour des prunes, c'est-à-dire se battre pour rien, est une expression qui en fait revient du XIIe siècle, lorsque saint Bernard de Clairvaux prêche le départ de la deuxième croisade, et que les croisés, après leur échec devant Damas, sont obligés de rentrer en Europe au milieu du XIIe siècle, avec finalement comme seule conquête le prunier, qui fut l'unique fruit de cette expédition en étant introduit en France où il était jusqu'alors inconnu. Se battre pour des prunes, se battre pour rien, ne rien retirer de quelque chose d'un combat qu'on a mené, ça nous vient de la deuxième croisade, donc de l'histoire de l'Église, au milieu du XIIe siècle. Mais il y a une autre expression que j'aime beaucoup aussi, peut-être parce que je suis périgourdin, c'est faire ripaille ou ripailler. C'est manger bien et parfois manger trop. Qui sait en fait que cette expression, ce verbe « ripailler » vient du XVe siècle, du duc Amédée VIII de Savoie, qui était dernier pape, antipape reconnu, et qui décida de renoncer à la tiare en se retirant dans son château de Ripaille, au bord du lac Léman, où il a passé finalement sa retraite, à profiter des biens terrestres.
Eh bien, on va digérer toutes ces expressions grâce à vous, et je renvoie les auditeurs d'ailleurs à ce dictionnaire décalé du vocabulaire tiré de la Bible, de l'histoire de l'Église et de l'argot ecclésiastique, ni sainte ni touche. Vous publiez ce livre aux éditions du Cerf. Merci Père Gauthier Mornaz d'être venu décrypter pour nous toutes ces expressions. À
Merci
très bientôt. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr.